Chapitre 34. Une chaîne de 9 miles de long. Il aida Beauvoir à porter Jackie jusqu'à la scène, où ils l'allongèrent devant une batterie acoustique rouge cerise, et la couvrirent d'un vieux manteau noir trouvé au vestiaire, avec un col de velours et, depuis le temps qu'il était accroché là, des années de poussière sur les épaules. Mapfe jubile emnan, dit Beauvoir en posant le pouce sur le front de la femme morte. Il se tourna vers Turner. « Elle s'est sacrifiée », traduisit-il. Puis, il remonta doucement le manteau noir pour cacher son visage. « C'est allé vite », commenta Turner. Il n'avait rien trouvé d'autre à dire. Beauvoir prit un paquet de cigarettes mentholées dans une poche de son peignoir gris et en alluma une avec un briquet d'Onil en or. Il le tendit ensuite à Turner qui secoua la tête. « Il y a un dicton créole, » annonça Beauvoir. « Qui dit quoi ?»« Que le mal existe. »« Hé !» fit Bobby Newmark d'un ton morne, de là où il était accroupi près des portes en verre, en train de regarder derrière le rideau. « Je ne sais pas comment, mais ça a dû marcher. Les gothiques commencent à partir, et on dirait que la plupart des décontractes se sont déjà tirés. »«
C'est bien, » affirma doucement Beauvoir. « C'est grâce à toi, comte. Tu t'en es bien sorti. Tu as mérité ton surnom. »
Turner regarda le gamin et comprit qu'il errait encore dans le brouillard de la mort de Jackie. Il était sorti des trottes en hurlant et Beauvoir l'avait giflé trois fois, fort, pour qu'il se taise. Mais tout ce qu'il leur avait dit sur sa plongée, celle qui avait coûté la vie à Jackie, c'était qu'il avait transmis le message de Turner à Jaylene Slide. Turner observa Bobby se lever avec raideur et aller jusqu'au bar. Il remarqua que le garçon prenait bien soin de ne pas regarder la scène. Étaient-ils amants, associés? Improbable dans les deux cas. Il quitta le rebord de l'estrade et retourna dans le bureau de Jammer, s'arrêtant pour jeter un œil à Angie qui dormait recroquevillé dans son parka découpé, sous une table à même la moquette. Jammer était endormi lui aussi dans son siège, sa main brûlée sur les genoux entourée d'une serviette rayée. Coriace et vieux hacker, pensa Turner. L'homme avait rebranché son téléphone dès que Bobby était ressorti de sa plongée, mais Conroy n'avait jamais rappelé. Il ne le ferait plus maintenant. Turner savait que cela signifiait que Jammer avait bien estimé la vitesse à laquelle Jaylene frapperait pour venger Ramirez, et que Conroy était certainement mort. Et désormais, à en croire Bobby, son armée de chevelus de banlieue décampait. Turner s'approcha du téléphone et y commanda un résumé des dernières infos avant de s'installer dans un siège pour les regarder. Un ferry hydroptère avait heurté un sous-marin miniature à Macao. Les gilets de sauvetage de l'hydroptère n'étaient pas de bonne qualité et au moins 15 personnes s'étaient noyées, tandis que le sous-marin, un navire de plaisance immatriculé à Dublin, n'avait toujours pas été localisé. Quelqu'un s'était visiblement servi d'un lance-roquette pour tirer des projectiles incendiaires sur deux étages d'un immeuble coopératif de Park Avenue, et des équipes d'urgence étaient encore sur les lieux. Les noms des occupants n'avaient toujours pas été dévoilés et personne n'avait encore revendiqué l'attaque. Turner pianota sur le téléphone pour repasser cette information. Les équipes de recherche de l'autorité nucléaire sur le site de la prétendue explosion atomique en Arizona affirmaient que les petits niveaux de radioactivité détectés étaient trop bas pour provenir d'une tête nucléaire à Stockholm. L'on venait d'annoncer la mort de Joseph Virek, le mécène à l'immense fortune. Selon certaines rumeurs, il était malade depuis des décennies, et sa mort résultait d'une défaillance catastrophique des systèmes qui le maintenaient en vie, dans une clinique privée et extrêmement protégée, d'une banlieue de Stockholm. Turner repassa cette information une deuxième, puis une troisième fois avant de froncer les sourcils et de hausser les épaules. Sur une note plus légère, la police d'une banlieue du New Jersey annonçait que « Turner ?» Il éteignit le résumé et se tourna pour découvrir Angie dans l'embrasure de la porte.
« Comment vas-tu, Angie ?»«
Ça va, je n'ai pas rêvé. »
Elle tenait le sweatshirt noir serré contre elle et levait les yeux vers lui, sous une frange brune et lisse. Bobby m'a montré où était la douche. Dans des sortes de coulisses, je vais y aller. J'ai vraiment les cheveux crades. Il s'approcha d'elle et posa les mains sur ses épaules. Tu t'es très bien débrouillé dans ces circonstances.
Tu vas bientôt sortir d'ici. » Elle haussa les épaules pour qu'il retire ses mains.
« Sortir ? Pour aller où ?
Au Japon ? Peut-être pas au Japon. Peut-être pas à Osaka. »«
Elle va venir avec nous, » dit Beauvoir derrière elle.
« Pourquoi est-ce que j'accepterai ?»«
Parce que nous savons qui tu es, » expliqua Beauvoir.
« Tes rêves sont réels. Tu as rencontré Bobby dans l'un d'entre eux et tu lui as sauvé la vie en le libérant de la glace noire. Tu as dit, « Pourquoi te font-ils ça ?»
Angie écarquilla les yeux, puis elle regarda Turner avant de revenir vers Beauvoir.
« C'est une longue histoire, » dit Beauvoir, « et que l'on peut interpréter de différentes manières. Mais si tu viens avec moi, que tu retournes dans la cité, notre peuple pourra t'apprendre. Nous pourrons t'enseigner des choses que tu ne comprendras pas, ou peut-être que si.
Pourquoi ?
À cause de ce que tu as dans la tête. »
Beauvoir acquiesça avec solennité, puis remonta les lunettes en plastique sur son nez.
« Tu n'es pas obligé de rester avec nous si tu ne veux pas. En fait, nous ne sommes là que pour te servir. »
« Me servir ?
Comme je l'ai dit, c'est une longue histoire. »
« Qu'en dites-vous, Monsieur Turner ?» Turner haussa les épaules. Il ne savait pas où elle pourrait aller, et Maas ou Osaka seraient probablement prêts à payer pour la récupérer ou la tuer.
« C'est sans doute la meilleure option, » dit-il. « J'aimerais rester avec vous, » dit-elle à Turner. « J'aimais bien Jackie, mais elle est… »«
T'en fais pas, » dit Turner.
« Je sais. Je ne sais rien du tout. »
hurla-t-il en silence.
« Je prendrai des nouvelles.
Nous ne nous reverrons jamais. »
« Mais il faut que je te dise quelque chose maintenant. Ton père est mort. Il s'est suicidé.
Les employés de la sécurité de Maas l'ont tué. Il les a retenus le temps que tu puisses t'échapper de la Mesa avec l'ultra-léger. »
« C'est vrai ? Qu'il les a retenus ? Enfin, je sentais bien qu'il était mort, mais… »«
Oui, » affirma Turner. Il sortit l'étui noir de Conroy de sa poche et lui passa la sangle autour du cou.
Il y a un biologiciel contenant un dossier là-dessus.
Pour quand tu seras plus grande.
Il ne raconte pas toute l'histoire.
N'oublie jamais qu'on ne la connaît jamais vraiment.
Bobby se tenait près du bar lorsque le grand type sortit du bureau de Jammer. L'homme s'approcha de l'endroit où dormait la fille et ramassa sa veste de l'armée sale, l'enfila, puis marcha jusqu'au rebord de la scène, là où Jackie était étendue et paraissait si petite, sous le manteau noir. Il tira un pistolet de sa poche, l'immense Smith & Wesson Tactical. Il ouvrit le barillet et en sortit les munitions qu'il rangea dans son manteau, puis posa l'arme près du corps de Jackie, sans le moindre bruit.
« Tu as été bon, comte, » dit-il en se tournant vers Bobby, les mains enfoncées dans les poches de sa veste.
« Merci, mon pote. »
Bobby sentit la fierté percer à travers sa torpeur.
« Adieu, Bobby. »
L'homme s'approcha de l'entrée et s'attaqua au verrou.
« Tu veux sortir ?»
Il se précipita vers la porte.
« Regarde, Jammer m'a montré. Tu t'en vas, mec ? Où tu vas aller ?»
Puis la porte s'ouvrit et Turner s'éloigna parmi les étals déserts.
« Je ne sais pas !» cria-t-il à Bobby. « Je dois d'abord acheter 80 litres de kérosène. On verra ensuite. »
Bobby le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse par l'escalator apparemment en panne. Puis il referma la porte et la verrouilla de nouveau. Sans observer la scène, il traversa le Jammers jusqu'à l'entrée du bureau et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Angie pleurait, le visage enfoui dans l'épaule de Beauvoir. Et Bobby sentit une pointe de jalousie qui le surprit. Le téléphone tournait derrière Beauvoir et Bobby vit qu'il s'agissait du résumé des infos.
« Bobby !» dit Beauvoir. « Angela va venir vivre avec nous dans la cité pendant quelque temps. Tu veux venir, toi aussi ?»
Derrière Beauvoir, sur l'écran du téléphone, le visage de Marsha Newmark apparut. Marsha, maman, sa mère.
Hier, la police d'une banlieue du New Jersey a annoncé qu'une dame dont l'appartement avait été la cible d'une explosion a découvert avec surprise en rentrant chez elle hier soir que…
« Ouais !» dit aussitôt Bobby. « Carrément, mon pote !»